Nous passons maintenant à la rubrique du Daily, le journal francophone de McGill. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Charles, Gwen et Joseph. Allô?
Salut!
Bonjour!
Je vous passe la parole.
Oui, donc c'est ça. Ici Joseph Beaujeu, rédacteur en chef. On revient cette semaine avec plusieurs articles pour vous. Lancer le spectacle, allons-y, avec une recension sur un spectacle de McGill, du Players Theatre, qui a commencé la semaine dernière et qui s'étend jusqu'à la semaine prochaine. Le spectacle s'appelle « Oh, what a lovely war » et l'article « Adieu, que la guerre est jolie », traduction fidèle d'Apollinaire. La der des der, qu'est-ce que c'est? C'est 9 millions de morts, soldats et presque autant de civils. Et c'est le sujet que s'est choisi le Players Theatre pour le deuxième spectacle de sa saison théâtrale. La pièce qui s'intitule « Oh, what a lovely war » tombe à pic. Parce qu'on célèbre en fait cette année le 100e anniversaire, triste commémoration, de la première boucherie internationale du XXe siècle. Le sujet est vu, revu, épuisé. Tous les héros ont parlé. Et pour preuve, on est même passé aux animaux. Je ne sais pas si vous avez lu pendant que vous étiez petit « Cheval de guerre » de Michael Morpurgo ou vu le film. On a ensuite eu droit au Collier Rouge, donc le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin qui traite l'histoire d'un chien pendant la Première mondiale. Mais au milieu des hommages, cependant, on a toujours un inconnu, hein, c'est le soldat. C'est le soldat. Il est irlandais, français, prussien, canadien ou anglais. Et c'est le personnage principal de cette pièce. Autour de lui gravitent des officiers, des généraux, des maréchaux, des munitionnettes, des vendeurs d'armes et tous les acteurs de la guerre totale. Et c'est pour lui que la metteur en scène anglaise, Joan Littlewood, en 1963, avait décidé de monter une pièce à partir de chants authentiques et de situations véritablement vécues par les soldats des tranchées. Et c'est aussi pour lui que cette semaine, on a une dizaine de pyros qui ont pris d'assaut les planches du Players, sous la direction... très habile, il faut dire, de Connor Spencer. Donc la troupe est joviale, attachante, festive. Le spectateur a à peine le temps de s'installer, qu'il joue déjà et qu'il chante, accompagné de trois musiciens. Un des pyros s'avance devant nous, on dirait que c'est le chef, il s'appelle Annie. Comme dans la vraie vie, on l'appelle Annie Chaudhuri. Et avec l'exubérance de son rang de chef de pyro, il lance le spectacle. Qu'est-ce que c'est? Une série de scénettes complètement farfelues, satiriques, déjantés de la Première Guerre mondiale, qui sont tirés de faits réels et qui sont rythmés par autant de chants d'époque. Donc c'est des traditionnels du 19e siècle, parodiés par les soldats. Je ne vais pas vous les chanter ici, mais l'envie n'est pas là. Enfin, tout est dit ici. On a l'assassinat de Franz Ferdinand, le fol engrenage des alliances, la mobilisation, le front, l'arrière, l'enrichissement des uns, des vendeurs d'armes, et la misère des autres, des simples soldats. Et on passe d'un camp à l'autre, avec la rapidité d'un coup de fusil. Il y a des cubes en bois sur la scène qui nous permettent de changer de décor assez rapidement. Et le rythme en est plutôt bien sorti. On rigole, on se marre bien avec ces pitres, on se moque allègrement de la situation, du caractère des peuples, allégorisé avec l'excès qu'il convient. La mention toute spéciale revient à la France, bien sûr, représentée par une actrice du campus, Clara Nizar, qui est d'un snobisme et d'une arrogance inégalable et inégalée. En fait, il faut dire qu'elle y va fort, parce qu'elle joue carrément en français dans la pièce, dans cette pièce qui est anglaise. Mais de toute façon, il faut lui pardonner, parce que ça avait été écrit en français. Et en fait, c'est toute la force de cette pièce-là, parce que c'est une pièce qui mélange les langues, les situations et les tonalités. Lors de la fameuse trêve d'août de Noël 1914... Les Allemands entonnent la Stille Nacht, la douce nuit, et les Anglais répondent par un Christmas Day in the Cookhouse, une chanson super joyeuse. Et donc il y a donc des tonalités qui évoluent par rapport au premier acte, parce qu'ensuite le feu reprend, est beaucoup plus grave, et les pyros arrivent à nous faire carrément dérailler au niveau émotionnel. On peut pas rester de marbre quand on entend des chansons comme Le Plateau de Craon ou Adieu la vie, qui sont des chansons contestataires écrites par les mutins, les soldats mutins de 1917. Donc environ 300 000 soldats français qui avaient refusé d'aller au combat durant l'assaut du Chemin des Dames. Apollinaire écrivait « Adieu que la guerre est jolie » avec ses chants et ses longs loisirs. Et il avait tristement raison d'ironiser là-dessus. Puisque l'histoire s'écrit, puisqu'elle est le fruit d'un discours officiel justifiant toutes les incohérences et toutes les atrocités, qui est un discours qui est martelé dans les salles de classe jusque dans nos assemblées. Alors, Oh What a Lovely War, cette formidable pièce, joue un rôle capital. Comme Les Croix de Bois, ce super roman un peu oublié de Roland Dorgelès, comme cette BD super connue par contre de Jacques Tardy qui s'appelle C'était la guerre des tranchées. Oh What a Lovely War permet de faire revivre la mémoire anonyme de milliers d'hommes qui ne voulaient pas aller en guerre et qui voulaient justement rentrer à la maison, rentrer chez eux. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir cette pièce qui joue jusqu'à samedi prochain aux Players dans le bâtiment de SMU pour la modique somme de 6$, il me semble. Je vais passer la parole à Gwen.
Bonjour, moi je vais vous parler d'un sujet complètement différent. C'est un sujet de société. Ça s'appelle « La place du patient, le rôle du médecin ». Et c'est des spécialistes montréalais qui s'interrogent et sur la différence entre soigner et guérir au XXIe siècle. Alors, dans le serment d'Hippocrate, que prêtent tous les médecins encore aujourd'hui lorsqu'ils entrent officiellement dans la profession en Occident, on peut lire « Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades ». Aujourd'hui, profession prestigieuse, la médecine est définie comme science et art du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines. Ceci par l'Office québécois de la langue française. Cette différence de définition offre une conception différente, en fait, même du rôle de médecin. De l'homme au service des hommes, au scientifique combattant la maladie, du soigneur antique au guérisseur moderne. Comment le métier de médecin a-t-il évolué pour en arriver à ce qu'il représente aujourd'hui ? Alors, les textes de médecine d'Égypte ancienne, des Hébreux ou de Chine n'ayant pas été conservés, on attribue traditionnellement les débuts de la profession à la Grèce du siècle de Périclès, 5e siècle avant Jésus-Christ. À McGill, dans le cours de la santé et les guérisseurs dans l'histoire occidentale, Health and the Healer in Western History, on apprend que c'est d'abord à Athènes qu'il aurait été possible pour les médecins de vivre des revenus de cette pratique qui, ainsi, se professionnalisait. Le serment d'Hippocrate, auquel on attribue encore aujourd'hui une grande importance morale, aurait été rédigé à peu près à cette époque. Graham Shipley, dans l'ouvrage The Greek World, le monde grec, ouvrage très prestigieux aussi, affirme que la médecine, encore plus que les autres sciences, était étroitement liée au contexte politique et culturel, et rappelle toutefois la vocation humaniste liée à la profession, peut-être un peu amplifiée dans le célèbre serment. Donc, est-ce un métier de statut ? Il semble que le point charnière de la médecine s'articule dans la relation entre les patients et les médecins. Le métier ne se dissocie pas d'une forme certaine de prestige, qui aux yeux de certains est fortement problématique. Marc Zafran, romancier et essayiste mieux connu sous le nom de Martin Winkler, qui a été médecin de famille en santé des femmes en France de 1983 à 2008, a accordé une entrevue au Devoir le 14 octobre dernier, donc la semaine dernière, dans laquelle il déclare « C'est une profession de statut, une élite autoproclamée ». Le problème que soulève l'auteur de l'essai « Le patient et le médecin » paru en septembre aux presses de l'Université de Montréal est la contamination de la relation de soins par une mise en place d'un rapport de force. Selon Marc Zafran, l'un des problèmes se situe dans le fait que se poser en sauveur, c'est se présenter, sinon comme tout puissant, du moins comme plus puissant que le commun des mortels, écrit-il au chapitre intitulé « Du pouvoir médical » de son essai. Profession de prestige, la médecine a ses revers que les patients subissent parfois. Cependant, on ne peut réduire la vocation humaniste de la médecine au problème de rapport de force. Certaines complexités sont liées au changement du rôle des médecins au gré des circonstances de leur pratique. Alors, est-ce le soin ou bien une science de la guérison, la médecine ? En entrevue avec le Daily, Michel Duval, l'un des membres fondateurs de l'équipe des soins palliatifs pédiatriques du CHU Sainte-Justine, explique la différence entre soigner et guérir, et l'évolution de ces principes au cours des dernières décennies. Comprenons ici soigner comme apaiser le patient et guérir comme délivrer le patient en faisant cesser sa maladie. Il affirme « On guérit une maladie, on soigne un patient ». C'est une distinction primordiale dans l'exercice de la profession. Pendant longtemps, la médecine ne permettait que très peu de guérison. Elle a commencé à être véritablement efficace au milieu du XXe siècle avec l'arrivée de la vaccination et des antibiotiques. À partir de ce moment, les maladies ont commencé à être massivement guéries et la médecine a adopté une approche plus scientifique, s'écartant du soin. La génération de médecins qui a étudié dans les années 1980 apprenait le métier de technicien de la guérison plutôt que celui de soignant. C'est à ce moment que le sida fait son apparition et entraîne une prise de conscience de l'impuissance de la médecine qui connaissait alors un essor fulgurant, une amélioration continue. Pendant 20 ans, les médicaments restent inefficaces, les patients meurent. C'est un moment charnière pour la remise en cause de la médecine comme science de la guérison. Se développent alors les soins palliatifs, des traitements qui n'agissent pas directement sur la maladie mais qui visent à soulager le patient. Ainsi, après avoir pu s'être transformé en guérisseur grâce aux progrès scientifiques du siècle dernier, les médecins se retournent depuis peu vers leur rôle de soigneur. Du côté anglo-saxon, le pionnier des soins palliatifs, M. Balfour, avait déjà entrepris, dès 1970, au Centre universitaire de santé McGill, une étude faisant un état des lieux de la fin de vie. Cette branche de la médecine est, selon le docteur Duval, le réinvestissement des soins qu'il manque aux techniciens de la guérison. La pratique des soins palliatifs porte des intentions beaucoup plus humbles que celles prêtées aux anciens sauveurs tout-puissants. Au XXIe siècle, les médecins se confrontent aux limites de la guérison garantie. Certaines maladies ne se guérissent que partiellement et mettent en évidence l'importance de ne pas oublier de prendre soin des malades. À Montréal, l'enseignement évolue et se tourne aussi vers le soin. En 2007, le docteur Balfour Hammond crée le programme Whole Person Care, traitement de toute la personne, à McGill, proposant l'enseignement d'une discipline tournée vers l'empathie, la compassion et les objectifs d'une médecine de la personne et non plus uniquement des maladies. À l'Université de Montréal, un programme de partenariat de soins et de services entre les intervenants et avec le patient se met en place, depuis 2008. Le guide d'implantation du programme indique qu'il ne s'agit plus uniquement de prescrire, ni même d'informer ou de tenir compte des besoins du patient. Il s'agit plutôt de l'impliquer dans son processus de soins, de l'accompagner dans le développement de ses propres compétences et connaissances afin qu'il puisse prendre des décisions éclairées relativement à son traitement et à ses soins et d'augmenter progressivement sa capacité d'autodétermination. Donc cette dichotomie entre les scientifiques qui guérissent et les humanistes qui soignent ne semble pas être l'essence immuable de la médecine. Pour preuve, les nouveaux programmes mis en place sont autant de tentatives pour faire cohabiter les deux approches dans un même mouvement de progression vers une médecine plus à l'écoute de ses patients. Cela malgré les progrès scientifiques qui tendent, dans certains cas, à dépersonnaliser les rapports humains.
Merci beaucoup Gwen pour cet super intéressant tableau et surtout cette nuance qu'il faut bien faire entre soins et guérison. Nuance qu'on ne sait pas toujours faire, nous, le profane.
Merci. Donc, Charles, je t'invite à nous dire où on peut trouver ta chronique.
Étant donné que le temps presse, je vais simplement vous introduire au sujet de ce dernier article de la section économie au Daily. Et celui-ci s'intitule « Entrée en économie de marché », un vaste thème auquel s'attelle Olivier Pasquier, un généreux collaborateur. Et il s'intéresse à la Slovénie. Donc il prend un cas qui s'appelle la Slovénie et ce thème, il le décrit sous l'appellation le bon élève. Ce pays, c'est le bon élève des pays des Balkans.
Donc c'est un portrait plutôt amélioratif.
De la situation économique dans un pays qui, rappelons-le, faisait partie du bloc soviétique et plus précisément de la Yougoslavie.
Et puis, est-ce que c'est en ligne?
Oui, on peut le trouver en ligne à partir de demain. Il sera dans les pages, bien sûr, qu'on peut trouver partout sur le campus et un peu autour du centre-ville.
Mais merci. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en plonger plus profondément. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.